Business Acumen, le podcast qui vous aide à remettre le business au centre de vos priorités. Je m'appelle Manuel Marie, chez Nalab, le cabinet qui accompagne la croissance des entreprises en développant leur capital humain, et je vais vous parler de Business Acumen. Aujourd'hui, je reçois Laurent Sébarek pour vous parler du réseautage. Salut Laurent, merci d'être notre invité sur Business Acumen. Alors, tu es actuellement sales coach, tu as une expérience de plus de 10 ans dans le recrutement et tu as rejoint récemment Nalab en tant que consultant sur la thématique Business Acumen. Et il me semble que tu es un passionné de Michael Jordan qui n'est pas le dernier quand il s'agit de parler business.
Bonjour Manuel, je te remercie de me recevoir. Effectivement, je suis sales coach, ça veut dire que j'accompagne des équipes commerciales et des dirigeants dans l'amélioration de leur performance commerciale. Tu parlais de Michael Jordan. Ce que je fais, effectivement, fait écho aux sportifs, dans le sens où je les aide, comme des sportifs de haut niveau, à améliorer leur performance. Michael Jordan, le lien se fait naturellement avec le sportif, bien sûr, mais aussi avec le business, parce qu'il est souvent le sportif préféré de ton sportif préféré. D'ailleurs, je ne demande pas qui est ton sportif préféré. Je pense que c'est Zidane, mais bon.
Non, c'est un joueur du PSG.
Oh mon Dieu. D'ailleurs, en parlant de PSG, sur le maillot du PSG, on a le logo de Michael Jordan, pour te montrer à quel point il est devenu iconique dans la culture populaire et il pèse à peu près 3 milliards de dollars. Donc ça donne vraiment la teneur de ce pourquoi, dans le business, il est exemplaire aussi pour les sportifs de haut niveau.
Laurent, aujourd'hui, on va se parler de réseautage. Et moi, le premier constat que je fais sur le réseautage en France, c'est que c'est un gros mot. J'ai l'impression que chaque fois qu'on évoque réseautage, on fait référence, tu sais, au réseau d'affaires, au réseau mafieux. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, qui n'est pas très clair, tu vois, avec ce terme de réseautage. D'ailleurs, tu vois, un magazine a envie de faire une explosion dans les ventes, il va nous sortir les réseaux mafieux, les réseaux d'affaires, etc. Donc, on sent vraiment qu'il y a une connotation, une perception qui est vraiment négative. Et on a le sentiment, si tu veux, qu'à chaque fois qu'on est dans une démarche de réseautage, en fait, on va essayer d'obtenir quelque chose, voire éventuellement manipuler notre interlocuteur. Et je trouve ça assez dommage parce que je pense que c'est une croyance limitante, mais malheureusement, elle est fortement ancrée dans notre inconscient collectif en France. Et d'ailleurs, je ne sais pas d'où ça vient, ça.
Effectivement, c'est assez particulier en France, cet inconfort qu'on a avec le réseautage. Je ne saurais pas dire exactement d'où ça vient. Ce que je constate, c'est que souvent, on confond réseautage et piston, ou du moins on les assimile plus exactement. Et notamment dans le recrutement, on a le sentiment que quelqu'un qui va demander une opportunité, se présenter en demandant s'il y a une opportunité, ou en étant recommandé par X ou X, a fait appel à du piston, alors que c'est simplement, en fait, mettre ses connaissances en valeur par rapport à un contexte particulier. Donc ça, c'est pour moi le premier point. Et puis, il y a aussi une logique, finalement, quand l'inconfort, il est lié au fait qu'on pense que c'est lié à une élite, on pense que c'est quelque chose qui est un pouvoir secret que certains auraient par rapport à d'autres, et il n'en est rien.
Oui, moi, je te rejoins quand tu parles de pouvoir secret. Enfin, moi, je pense que le réseautage, c'est une compétence qui est absolument fondamentale. Et ce qui m'a surpris, tu vois, moi je suis diplômé d'une école de commerce en France, c'est qu'à aucun moment dans notre cursus académique, alors qu'on était dans une école de commerce, à aucun moment on m'a parlé de réseautage, de business networking, de comment s'y prendre pour contacter des gens. Donc ça, c'est quand même assez surprenant. Toi qui as toutes ces années d'expérience dans le recrutement ou dans l'accompagnement des commerciaux, comment tu les sens sur cette compétence de réseautage, quoi?
Ce que je vois, en fait, c'est que nous sommes un pays qui est le pays de Descartes. Ça, c'est le premier point. Donc, une nation d'ingénieurs, et on raisonne avant tout avec des logiques de matière grise. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Je pense que tu connais bien cette expression. Et donc, le réseautage n'apparaît pas comme quelque chose qui est palpable, quelque chose de scientifique. C'est l'opposition entre les soft skills versus les compétences. De plus, il existe aussi en France la tentation de mettre les gens dans des cases, et notamment, pour expliquer cela, on va parler de l'assistante, qui est sollicitée uniquement pour une fonction, une tâche, et qui, bizarrement, n'aurait pas de capacité à entrer en connexion avec d'autres ou à connaître des personnes qui pourraient être intéressées par le cabinet et l'offre du cabinet. Donc, on est sur quelque chose qui est un peu évanescent, finalement, et qui ne parle pas véritablement en termes de connexion, si on peut employer le terme, d'ailleurs, c'est assez intéressant, aux autres. Donc, voilà, je pense, une des raisons.
C'est intéressant parce que quand on évoque, tu vois, l'assistant ou l'assistant de direction, On se dit quand même que c'est la porte d'entrée pour avoir accès aux décideurs. Donc on pourrait se dire que c'est vraiment des personnes avec qui il faudrait réseauter, mais est-ce qu'elles-mêmes, elles sont en capacité ou ont envie de réseauter? Et ça me fait penser que, tu vois, récemment, j'ai simplement fait une recherche sur Google pour savoir quels étaient les ouvrages de référence, tu vois, sur le networking, sur le réseautage. Je trouve, je te mens pas, à peu près 10 000 documents en anglais, notamment qui nous proviennent des États-Unis. Et en français, bah, je retombe systématiquement sur Hervé Baumler, que je pense que tu connais, qui donc est la référence en France et qui a écrit donc des livres sur le réseautage, des titres, tu vois, comme Booster sa carrière grâce au réseau, Trouver le bon job grâce au réseau. Et tu vois, même quand je me mets à chercher sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, s'il n'y a pas éventuellement des influenceurs qui parleraient de réseautage en langue française, bah, c'est quasiment rien. Alors qu'aux États-Unis, on a l'impression qu'il y en a 500 ou 1000, quoi.
C'est vrai, et c'est quelque chose qui est assez frustrant quand on y pense. On a l'impression que non seulement le réseautage, mais finalement les pratiques commerciales sont quelque chose qui n'est pas du tout infusé dans notre culture française. Et je te laisse, on va dire, revenir là-dessus, mais peut-être qu'on pourrait continuer un peu plus loin là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, on en parlait un petit peu au début, une logique culturelle avant tout qui nous bloquerait?
Vraisemblablement, et il y a peut-être, si tu veux, dans notre culture en France, cette idée de ne pas oser se mettre en avant, ne pas oser déranger les gens. Moi, je me souviens quand on était à l'école primaire, il fallait toujours lever la main avant de pouvoir prendre la parole. Donc, ça, peut-être que ça vient de là, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, si tu veux, pour moi, il faut revenir un peu sur finalement la démarche de réseautage et en fait, en quoi ça consiste. Pour moi, réseauter, c'est arriver à entretenir des relations qui vont être mutuellement bénéfiques. Donc, tu as différents types de réseautage. Tu as ce qu'on appelle du réseautage d'affaires, tu as du réseautage social, hein, notamment avec l'avènement des réseaux sociaux. Et pour moi, il y a vraiment cette idée, tu vois, d'entretenir des relations, mais avec l'idée de, voilà, d'échanger des connaissances, des recommandations, des références. Il y a un réseau social que j'ai en tête. Alors bon, ça, tu vas peut-être sourire parce que c'est le réseau Google+. Et bon, on sait que ça n'a pas été un succès énorme chez Google. D'ailleurs, il a été arrêté, je crois, en 2019. Mais l'idée de base de Google+, elle était super intéressante parce que elle se fondait sur la logique des cercles. Tu vois, cette idée que, en fait, depuis ma naissance, il y a un certain nombre de cercles avec des personnes qui gravitent autour de moi. D'ailleurs, parfois, ils s'entrechoquent, hein, les cercles. Et que finalement, bah, je dispose déjà d'un réseau que j'ai construit au fur et à mesure de mes rencontres, aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle. Et ce réseau Google+, nous permettait assez rapidement, finalement, tu vois, de reconstituer ces cercles, notamment par rapport à des centres d'intérêt, enfin, ou à des cercles thématiques.
J'étais un grand fan de Google+, mais un très grand fan. Et je me rappelle avoir patienté des jours et des jours, avoir quémandé une invitation pour arriver enfin sur ce réseau, un peu comme j'avais fait à l'époque pour Viaduc, qui est devenu Viadeo. C'est vrai que Google+, avait cette particularité de créer effectivement des cercles composés pour composer notre réseau et que ça pouvait s'entremêler. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on met en avant lors de notre formation, où on demande à nos apprenants, en 10 minutes, de lister leurs différents cercles.
Oui, et on reviendra justement un peu plus tard, si tu es d'accord, sur cette méthode qui permet de reconstituer ces cercles. Moi, ce que je trouve intéressant avec les cercles, c'est que ce sont des personnes qu'on connaît déjà. Et là, je fais la distinction, par exemple, avec des commerciaux qui sont dans une approche de prospection dans le dur, hein, avec des gens qui ne nous connaissent pas encore. Là, dans nos cercles, ce sont des personnes qui nous connaissent. Donc, quand on va entrer en contact avec elles, assez naturellement, elles devraient nous répondre. Après, on sait que parfois, sur des problématiques de « j'ai pas le temps », etc., on peut aussi être confronté à ça, mais globalement, ce sont des personnes qui vont être ouvertes, disposées à répondre à notre sollicitation. Donc, l'idée, c'est que même quand on travaille sur nos cercles, il peut y avoir aussi un effort à faire sur la partie relance, parce que, bah, comme je le disais, nos contacts ne sont pas nécessairement tout le temps disponibles pour nous, mais on sait qu'il n'y aura vraisemblablement pas cette frustration qu'on peut avoir lorsqu'on fait dans la prospection dans le dur et qu'on n'obtient aucune réponse à nos messages en dépit de la 6e, 7e et 8e relance.
D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que souvent, lorsqu'on parle de réseautage et notamment de professionnalisation du réseautage, de business networking, on pense avant tout aux commerciaux, Et puis de plus en plus, comme la France est devenue un pays d'entrepreneurs, les entrepreneurs aussi maintenant s'y mettent, parce qu'effectivement c'est une des manières les plus naturelles et les plus accessibles, comme tu le disais, puisqu'on n'est pas dans le dur, pour développer du business. Donc de plus en plus, cette pensée de professionnalisation se diffuse, on va dire, en France, notamment avec les entrepreneurs, les startups, et c'est peut-être ce qui a créé le décalage, ou ce qui crée le décalage dans la pensée commune, c'est-à-dire que c'est réservé à certaines personnes qui en auraient plus besoin que d'autres. Et on peut rebondir sur le fait de l'assistant, d'ailleurs, qui est payé pour fermer des portes, d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant, parce qu'au lieu d'ouvrir et d'aider, on va dire, son entreprise, on lui demande de fermer des portes. Donc déjà, il y a, dans la posture dont tu parlais, il y a quelque chose d'intéressant. Mais si je reviens sur cette logique de professionnalisation, ça implique qu'on ne soit pas en dilettante pour le faire. Ça implique de la méthode, une gymnastique et le fait qu'on y consacre du temps. Ça veut dire que, si on reprend l'exemple du commercial, il devrait y consacrer normalement 10 à 20% de son temps pour faire du business networking. Et j'ajoute à cela qu'il y a une vraie démarche, un, de curiosité, qui est pour moi un des fondements lorsqu'on est commercial ou lorsqu'on est entrepreneur, et puis aussi la bienveillance envers l'autre. Ça veut dire que, comme l'explique très bien Dale Carnegie, dans Comment se faire des amis, il faut naturellement s'intéresser à l'autre.
Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Et en fait, quand tu dis qu'on devrait accorder, enfin, notamment peut-être les populations commerciales, 10 à 20% de notre temps au réseautage. Donc admettons que ce soit 20%, tu vois, ça ferait un jour par semaine, finalement, par exemple lundi, je ne sais pas, qui serait dédié uniquement au réseautage. Que les choses soient claires, on en est très loin actuellement.
Ne me tente pas. Ne me tente pas là-dessus, Manuel. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très, très, très sensible. Beaucoup de commerciaux me disent qu'ils aiment la relation, qu'ils aiment le contact, que le relationnel, c'est leur point fort. Et pour autant, pour la plupart d'entre eux, ils n'utilisent pas, n'entretiennent pas leur réseau pour générer du business.
Pour revenir, tu sais, sur la notion donc, centrale, parce qu'on évoque le business acumen, hein, donc cette idée de sens des affaires, mais avec une logique de perspicacité, d'acuité, et donc d'intégrer le réseautage dans cette approche-là. Moi, je peux vous partager en fait la façon dont ça s'est passé pour notre cabinet, puisque ça nous a servi finalement cette approche à surmonter, d'une certaine manière, tu vois, la période de crise sanitaire. Pourquoi ? Parce que bah, du jour au lendemain, on n'a plus pu rencontrer nos clients, on ne pouvait plus assurer nos formations, et on s'est demandé bah, comment on va faire pour continuer à nouer des liens avec de potentiels partenaires business, mais aussi, tu vois, à trouver de nouveaux moyens de faire du business. Et l'air de rien, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec beaucoup plus de temps disponible pour échanger, pour s'intéresser aux autres, et par la même occasion, bah, évidemment, pour aller identifier des éventuels besoins en accompagnement sur ce qu'on fait, nous, en capital humain.
C'est vrai que la période, on va dire, Covid, confinement, a créé un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la capacité à contacter des gens finalement était plus facile, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, notamment via les réseaux sociaux et puis les systèmes de visioconférence, Teams, Zoom. Et ça a créé finalement aussi le besoin d'authenticité beaucoup plus fort. Aller sur des rencontres qui vont être soit informelles, effectivement, prendre un café finalement à distance, c'est quelque chose qui devenait réalisable, et puis s'intéresser, parce que ce besoin finalement de se parler sur des moments des fois un peu improvisés, des fois peut-être plus cadrés, donnait l'opportunité de se connaître réellement. Donc il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là qui finalement, je pense, va rester dans les logiques de networking et dans les logiques d'échange qu'on a avec les autres. Et finalement, les caméras activées, ça rend l'échange encore plus agréable.
Carrément. Et moi, je trouve qu'en plus, il y a vraiment cette idée de profiter de ces moments-là, de profiter. Tu vois, par exemple, nous, on a un des bons clients de notre cabinet qui nous a sollicité, tu vois, au tout début du premier confinement, hein, donc en mars-avril dernier, en nous disant, bah voilà, nous on a nos consultants qui actuellement ne sont pas staffés, qui sont ce qu'on appelle un intercontrat, comment on pourrait leur permettre de se mettre dans cette approche, tu vois, un peu business, d'aller identifier des opportunités de business pour le cabinet, mais qu'ils puissent identifier au travers de leur réseau. Sauf que, bah, pour la plupart, ils n'avaient jamais fait. Ils pouvaient avoir des croyances limitantes. Ils ne savaient pas comment s'y prendre. Donc, en fait, on a monté ce module Business Acumen pour les accompagner. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, bah, effectivement, comme tu disais un petit peu plus tôt, au début du module, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils mettent derrière cette notion de Business Acumen, ils vont systématiquement te dire, bah oui, mais pour moi, c'est plus la partie des gens qui, au sein de notre cabinet, font du business développement. Donc, tu vois, on a un peu encore cette idée de de la chasse gardée des commerciaux, alors qu'en fait, comme tu le disais un petit peu plus tôt, bah, y a beaucoup plus de gens qu'on le croit qui sont dans l'obligation, d'une certaine manière, de développer du business. Tu parlais des entrepreneurs, mais aussi, tu vois, dans le monde du conseil, les consultants sont amenés à chercher des opportunités business. Donc, c'est à partir de là, vraiment, qu'on a construit ce module, quoi.
Et c'est intéressant ce point parce qu'on pourrait le relier encore à l'assistante, mais pour changer, on peut le relier au comptable. Généralement, on prend le comptable pour quelqu'un, entre guillemets, d'autiste, donc quelqu'un qui ne saurait pas parler aux autres et qui ne devrait pas parler aux autres. Alors que le comptable, finalement, lui aussi est au cœur d'énormément de relations avec les fournisseurs, avec les clients, et sa capacité justement à entrer en contact devient intéressante. J'accompagne actuellement une entreprise avec une personne qui est liée à la comptabilité par le recouvrement, et qui, en demandant simplement comment s'est passée la prestation et en demandant s'il ferait à nouveau confiance à l'entreprise, a généré du business. Donc tu vois, ce que tu me dis, c'est totalement ça, c'est cette capacité justement à aller au-delà de sa fiche de poste et à aller naturellement vers l'autre.
C'est marrant que tu parles de cet exemple du comptable. Moi, il y a quelques années, j'avais un camarade de promo qui était dans le contrôle de gestion. Alors, je précise, hein, on n'a rien contre la comptabilité ou le contrôle de gestion. Et c'était intéressant parce qu'à l'époque, il était à l'écoute du marché, il cherchait un nouveau job, toujours en contrôle de G. Et je lui ai dit, mais voilà, comment tu t'y prends pour trouver le job de tes rêves, etc. Et il m'a dit, vraiment spontanément, mais tu sais, moi, je suis pas comme toi, je suis pas commercial, j'ai pas besoin de me mettre en avant ou j'ai pas besoin de me lancer dans une démarche proactive parce qu'en fait, les gens qui me recrutent, ils veulent savoir si je suis bon en SAP, si je parle anglais et allemand. Et en fait, à partir de ça, naturellement, il va y avoir des personnes qui vont venir à ma rencontre, qui vont me recruter pour mes compétences. Ça m'avait un peu choqué, si tu veux, à l'époque, parce que je me suis dit, mais attends, là, on part de super loin. Et donc, je te remercie, tu vois, d'aborder l'exemple que tu as avec ce comptable que tu accompagnes, parce que vraiment, ça nous montre que non, le business networking, le réseautage, ce n'est pas que pour les commerciaux, ce n'est pas que pour les commerciaux extravertis, les introvertis aussi s'en sortent très très bien, on pourra peut-être en reparler aussi. Donc, il faut y aller, il faut se lancer et il faut s'y mettre. Alors Laurent, si on entre un peu plus dans le côté pratico-pratique de la démarche de réseautage, tu peux nous parler justement de la méthode qui est utilisée dans la logique des cercles ?
Dans un premier temps, pour appliquer cette méthode, il faut simplement penser aux différents groupes ou cercles qui gravitent autour de nous et les lister. Et assez facilement, nos apprenants arrivent à lister une dizaine, une quinzaine de cercles qui vont composer leur environnement. Donc ça peut être des groupes d'amis, des collaborateurs, anciens ou nouveaux ou actuels, et puis ça peut être également des associations sportives, ou pourquoi pas, tout le monde ne fait pas du sport, mais d'autres types d'associations, d'activités. Et puis, dans un second temps, on va leur demander de lister spontanément 3 à 4 personnes auxquelles elles peuvent penser qui font partie de ces cercles. Et là, on arrive à quelque chose d'assez impressionnant pour elles. Elles découvrent qu'elles ont 45 personnes potentiellement à contacter dans différents cercles. Et là, ça ouvre quelque chose. Tu parlais de croyances limitantes. Elles se rendent compte qu'elles connaissent des personnes parce qu'une des premières, un des premiers freins, pardon, c'est le fait de penser qu'on ne connaît personne et qu'on n'a pas de réseau. Et là, elles découvrent finalement la puissance de leur connexion.
Et donc finalement, ce que tu dis, c'est qu'en à peine quelques minutes, elles arrivent à mettre 45 noms sur une feuille. La question que j'ai envie de te poser tout de suite, c'est du coup, une fois qu'on a cette liste de contacts, comment on fait pour entrer en contact avec ces personnes et notamment, quels sont les canaux, tu vois, d'approche ou de communication qu'il faut privilégier ?
Tu parlais tout à l'heure d'un point fondamental, il faut se lancer. Donc avant même de parler du canal, il faut peut-être se lancer, effectivement, ça c'est la première chose. Se lancer, ça veut dire qu'il y a aussi peut-être pour certains une logique de préparation, savoir ce qu'on va dire, et ça permet, on va dire, de réfléchir au canal. Donc comment je vais, on va dire, aborder, et donc quel est le moyen le plus efficace. Il y a quelques années, il y a 20 ans, on aurait simplement pensé au téléphone. Maintenant, il y a toute une palette d'outils. Dans ces outils, il y a aussi bien des outils de visioconférence, il y a WhatsApp qui est utilisé par tout le monde, et quand je dis bien tout le monde, ma mère l'utilise, et mes enfants l'utilisent. Donc tout le monde utilise WhatsApp, c'est assez fédérateur, et quand je parle d'outils fédérateurs, WhatsApp c'est sur le téléphone mobile, donc on peut aussi envoyer un message, on peut aussi, pourquoi pas téléphoner, ça reste toujours une pratique intéressante, envoyer des emails, et puis passer par les réseaux sociaux. Donc on a une palette assez intéressante, et ça dépend du contexte de la relation, de la proximité. Et à partir de là, on va faire la bonne sélection et trouver le bon canal. Donc, assez rapidement, on a une idée assez précise. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est que, si tu me le permets, on sait qui on appelle. Donc, on a une capacité aussi à savoir par quel biais ça va répondre. Quand je dis on sait qui on appelle, on sait qui on contacte plus précisément.
Ok, donc on voit qu'il y a vraiment une possibilité, enfin un champ des possibles qui est assez étendu, tu vois, sur les moyens de contact, sur les outils qu'on peut utiliser, les canaux de communication. Mais une fois que je suis au clair sur, par exemple, le canal que je vais utiliser, comment, concrètement, je m'y prends, enfin, c'est-à-dire qu'est-ce que je leur raconte en fait? C'est quoi le message d'accroche?
Tu l'as dit, accroche. La première chose, c'est ce que je vais dire dans les 10 premières secondes, comment je vais attirer l'attention ou accrocher la personne à qui je dois parler. Ça revient à se poser une question fondamentale, je parlais de préparation, c'est est-ce que je parle de moi ou est-ce que je parle à l'autre? Et forcément, on est plus dans la deuxième partie, je dois parler à l'autre, et donc pour parler à l'autre, je dois l'intéresser. Donc je dois être très clair, un peu comme quand je reçois un appel d'un téléprospecteur, entre guillemets, je dois savoir qui il est, sa société potentiellement, pourquoi il m'appelle et ce qu'il y a comme bénéfice pour moi. Ce qu'il y a comme bénéfice pour moi, ça veut dire est-ce que tu vas me gâcher ma journée ou est-ce que tu vas changer ma vie, m'apporter un avantage incroyable. Là, on est sur une logique de réseau, donc des personnes que je connais, des connexions avec qui j'ai une relation. Donc c'est beaucoup plus facile, je sais de quoi leur parler et je ne suis pas dans une démarche de prospection, c'est une démarche où je vais apporter l'information en regardant, on va dire, leurs publications sur LinkedIn. Si ce sont des personnes sur LinkedIn, je saurais de quoi leur parler. En effectivement, on va dire, ciblant un peu mieux et puis en rappelant peut-être le contexte dans lequel on s'est connu, ben, je vais favoriser l'accroche. Tu parlais d'une école. Bien souvent, c'est aussi un bon biais pour contacter des gens. Je me rappelle que tu m'en avais parlé d'ailleurs, parce que peut-être que les gens ne le savent pas, mais on se connaît et puis on se connaît par réseau. Donc, c'est assez intéressant d'en parler. Alors, je n'ai pas fait la même école que toi. Mais voilà, c'est principalement l'accroche. Et si on peut résumer ces trois points, c'est qui, donc qui je suis, quoi, pourquoi, enfin pourquoi, pardon, pourquoi je t'appelle, et puis bénéfice, quel bénéfice je peux te donner.
Et en termes d'accroche, je dois l'avouer, tu m'as fait rêver un jour, tu m'as dit, écoute, je viens de cibler des CEO sur LinkedIn, et j'ai réussi à les accrocher, parce que dans mon message, je leur ai dit, je sais que vous encadrez des personnes, je sais que vous managez des gens depuis déjà pas mal d'années, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller comme lecture sur des ouvrages de management? Et ça, je me souviens que tu l'avais fait, que ça avait très bien marché, ça avait très bien fonctionné. Et ce jour-là, je me suis dit, bah, c'est exactement ça, en fait. C'est solliciter la personne, mais voilà, de façon intelligente, de façon raffinée. C'est exactement ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. Si je reprends ton exemple, tu sais, avec les 45 contacts là, qu'on a identifiés, tu vois, mettons que j'ai mon fichier avec ces 45 personnes. Qu'est-ce que tu nous suggères pour assurer le suivi, finalement?
La première chose que je vais suggérer, c'est premièrement de limiter le nombre de contacts. Et 100 paraît une bonne masse de personnes qu'on peut, entre guillemets, suivre et gérer. Ensuite, parmi ces, en gros, c'est la logique de la qualité versus la quantité. Effectivement, avoir 1 million de contacts, c'est bien, mais est-ce qu'on va pouvoir parler à ces 1 million de contacts? Vraisemblablement, non, du moins pas aussi facilement. Donc, se limiter à une centaine de personnes qu'on va pouvoir contacter, qu'on va pouvoir suivre, et ça veut dire être consistant et être fréquent. Consistant, ça veut dire qu'on va répartir son temps, on va s'organiser de manière à tous les jours, sans, on va dire, se bloquer trop de temps, contacter des gens, et puis ensuite pouvoir les suivre de manière beaucoup plus facile et naturelle. Donc c'est premièrement ces points-là, et puis si on parle de LinkedIn, ça va être aussi de faire attention à la mise en relation, puisqu'on peut demander à quelqu'un de nous connecter, et donc de suivre cette mise en relation et de remercier les personnes qui nous ont mis en relation.
Je crois que c'est très important là, le dernier point que tu viens de mentionner, parce qu'il peut y avoir sinon un peu de la frustration pour la personne qui a effectué la mise en relation. Donc je pense que le suivi, c'est vraiment très 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 important lorsqu'on se lance dans cette démarche. Et juste pour revenir sur cette notion de, on va dire, de taille du réseau ou de différents cercles dans le réseau, on utilise souvent la terminologie, tu sais, de niveau 1 ou niveau 2, voire éventuellement niveau 3 au niveau de nos cercles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau 1, finalement, ce sont les personnes avec lesquelles je suis déjà en contact. Si je te prends l'exemple de LinkedIn, un réseau social qu'on utilise beaucoup tous les deux, ce sont les personnes soit qui ont accepté ma demande de mise en relation, soit c'est moi qui ai accepté leur demande de mise en relation. On est connectés, elles sont dans mon niveau 1. Et toutes les personnes de niveau 2, c'est donc les contacts de mes contacts. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que lorsqu'on est, on recherche un emploi ou qu'on est en recherche d'opportunités business, bien souvent, les opportunités, elles ne viennent pas de notre niveau 1, mais finalement du niveau 2. Et sur la question de savoir, effectivement, combien de contacts il faut, En fait, on n'a pas la réponse, je crois, ni toi ni moi, mais simplement garder à l'esprit que le niveau 2, les contacts de niveau 2, c'est très important parce que c'est ce qu'on appelle la puissance des liens faibles et souvent les opportunités viennent de là. Après, la difficulté lorsque on a une approche quantitative, par exemple sur LinkedIn, c'est de se dire je vais accepter toutes les demandes de mise en relation sans nécessairement bien connaître mes interlocuteurs. Et là, quand je veux, par exemple, atteindre une personne qui est connectée avec cette nouvelle connexion, peut-être qu'en fait, elle va pas faire la mise en relation parce qu'elle-même ne la connaît pas très bien. Donc là, on peut se retrouver sur des situations un peu délicates. C'est là où je te rejoins de dire, dans ces cas-là, on va plutôt viser, on va dire, un réseau d'une centaine ou plusieurs centaines de personnes qu'on connaît bien. En revanche, ce qu'on va perdre en limitant la taille de notre réseau, c'est que lorsqu'on va, par exemple, poster des informations, on va avoir une zone d'impact qui est plus faible, quoi, tout simplement.
C'est bien que tu parles de cette notion d'impact, parce que l'impact, comme tu disais, si on vise la quantité, on peut penser qu'on va avoir un impact plus fort, mais pas réellement, parce que l'engagement qu'on a n'est pas le même avec l'ensemble des personnes. Donc se limiter sur un nombre de personnes qu'on va, entre guillemets, bien connaître, qu'on va bien suivre, a finalement un bien meilleur impact. Et puis, je vais revenir en arrière sur un point qui me semble important et que j'ai omis, c'est quand je vais commencer cette démarche avec mes routines que je vais installer. Je vais effectivement faire attention à mon premier contact et puis ça peut ne pas marcher. Donc il ne faut pas que je considère que cette première fois vaut comme une expérience totale. Il faut que je continue. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai fait une fois que j'ai fait une fois, c'est en fait n'avoir rien fait. Donc il faut continuer. Donc il y a une logique de relance qu'on peut faire effectivement soit encore sur LinkedIn. On parle souvent de LinkedIn. Alors on n'a pas d'action, toi et moi, hein. Sinon on serait peut-être en Californie actuellement. Mais ça veut dire que la relance, elle peut aussi se faire sur un autre canal et toujours en pensant avec cette logique d'organisation dans mon agenda ou dans les 5-10 minutes que je vais consacrer, je vais réfléchir aussi à d'autres canaux de communication qui vont être utiles. Toujours dans cette logique de qualité par rapport à mon réseau.
Et tu sais, toujours dans cette idée de gymnastique quotidienne, j'avais testé quelque chose qui fonctionne très bien sur LinkedIn. Tu sais, alors toi comme moi, c'est vrai qu'on a des offres payantes qui nous permettent d'avoir accès à pas mal d'informations sur LinkedIn notamment. Et notamment, il y a l'information, tu sais, de qui a consulté mon profil. Donc normalement, on a la visibilité sur les 90 derniers jours, il me semble. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce que finalement, chaque matin, je vais passer 5-10 minutes maximum à regarder qui a consulté mon profil dans les dernières 24 heures. Et pourquoi c'est intéressant pour moi? Parce que finalement, c'est comme en fait si j'avais une boutique, tu vois, en physique, et que finalement la boutique ferme à 19h et elle ouvre le lendemain à 9h, et que entre 19h et 9h, il y a plein de gens qui sont passés dans la boutique, qui ont peut-être été intéressés par ce qu'ils ont vu dans la boutique, et moi le lendemain matin, j'ai quelqu'un qui me dit, tiens, voici la liste de toutes les personnes qui sont passées dans la boutique pendant que toi tu faisais autre chose. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, sur les personnes qui ont consulté mon profil, il va y avoir soit des personnes avec qui je suis déjà en contact, les fameux contacts niveau 1. Ça peut être l'occasion aussi de reprendre contact si c'est des gens que j'ai pas, avec qui je n'ai pas discuté depuis un certain temps. Mais j'ai aussi beaucoup de gens qui sont niveau 2. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais entrer en contact avec ces personnes en leur demandant simplement, écoutez, voilà, je vois que vous avez consulté mon profil hier, comment je peux vous aider? Et donc, ça fonctionne très bien puisque, voilà, généralement, il y a quand même une idée derrière de partenariat potentiel ou un besoin en accompagnement, en formation. Donc ça, c'est une pratique, tu vois, qui prend 5 minutes par jour à peu près, quoi.
Ça prend 5 minutes par jour et d'ailleurs c'est une pratique les Américains ont théorisé en appelant cela le 5-5-5. Si tu veux aller un peu plus loin, le 5-5-5, c'est 5 minutes par jour, je vais contacter 5 personnes de mon réseau et je vais contacter 5 personnes que j'aimerais contacter qui ne sont pas encore dans mon réseau fort, mais comme tu le disais, dans mon réseau faible, c'est-à-dire en réseau 2 ou en réseau 3. Donc ça, c'est une pratique qui est très intéressante. Et puis, ce que tu disais me semble très important dans le sens où c'est un biais naturel. Le fait de regarder tous les matins qui a consulté notre profil, c'est pas simplement toi, c'est moi, c'est d'autres personnes tous les jours qui se disent, mais qui a consulté mon profil? C'est aussi quelque chose qui va nous aider à aller vers cette démarche de relation avec les autres et de rentrer dans une logique de business networking.
Moi, je suis totalement convaincu par ce que tu viens de nous dire, Laurent, et j'allais te demander, est-ce qu'il y a d'autres astuces, des tips que tu voudrais partager, toujours pour être dans cette démarche, tu vois, de réseautage et choses qui fonctionnent bien?
Une des choses qui fonctionne bien, je l'ai un peu abordée, mais je vais peut-être la formaliser de manière plus claire, c'est le partage et d'être vraiment tourné vers l'autre dans une logique de consistance et de fréquence. Quand je dis consistance, c'est-à-dire ne pas s'arrêter, continuer, même s'il peut y avoir des écueils. La fréquence, c'est être régulier aussi dans les actions qu'on va mener. Et pour ça, j'ai un exemple. Hervé Bloch, le fondateur des Big Boss, que tu connais aussi, qui, lorsqu'il était commercial dans une société structure dont j'oublie le nom, donnait, entre guillemets, ou mettait en relation d'autres personnes pour qu'elles créent du business ensemble. Et donc, ça lui permettait de générer, à peu près, de ce qu'on m'avait dit, 1,8 million d'euros pour les autres, et ça lui ramenait 1,3 million d'euros. Et ça veut dire que là, on est vraiment dans la puissance du business networking, c'est-à-dire que je donne avant de recevoir. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique forcément à penser tout de suite à un retour immédiat. Il y a aussi cette logique de « je vais donner et je recevrai dans un temps différent, dans un temps plus lointain, mais je mets en relation des gens et ça va m'aider moi aussi. »
Et je pense que tu fais référence à l'événement Les Big Boss.
Alors justement, finalement, il a transcrit son expertise dans la mise en relation dans son entreprise qui correspond à faire en sorte que des gens qui ne se connaissent pas forcément, mais qui ont des affinités ou des centres d'intérêt communs, puissent se parler et développer du business ensemble. C'est totalement lui ce qui l'a conduit tout au long de sa carrière professionnelle. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et puis d'un point de vue, on va dire, là j'ai parlé d'Hervé Bloch, moi à mon niveau aujourd'hui, je suis capable de toucher des personnes qui sont, on va dire, très haut placées dans le CAC 40, par le biais du réseau, chose que je n'aurais pas pu faire il y a 5 ans, mais qui maintenant, grâce au fait de m'ouvrir aux autres, de leur parler, même en n'étant pas forcément la personne la plus bavarde du monde, me permet d'entrer en relation avec donc des gens qui sont à un haut niveau et donc me facilitent mon business.
Pour rebondir sur ce que tu dis, tu vois, sur cette idée de donner avant de recevoir, si je fais le lien avec LinkedIn, tu sais, tu as la possibilité de rédiger une recommandation sur une personne de ton réseau que tu apprécies pour ses compétences professionnelles. Et j'invite souvent en fait les participants de nos formations à se lancer dans une démarche de recommander d'autres personnes et de le faire sans nécessairement avec cette idée que si je te recommande en faisant une recommandation écrite, automatiquement je vais exiger que tu m'en envoies une en retour. Ça peut marcher comme ça aussi, mais bien souvent je leur dis écoutez, voilà, réfléchissez déjà à 5 ou 10 personnes de votre réseau professionnel que vous avez admiré, avec lesquelles vous allez travailler et sur lesquels vous avez envie de dire des choses très positives, et puis offrez-leur la recommandation. De toute façon, si elles ne souhaitent pas que ça apparaisse sur leur profil, c'est elles qui décident si elles le font apparaître ou pas, mais offrez-leur ça. Et vous allez voir qu'effectivement, en ayant cette gymnastique, cette dynamique-là, on peut avoir effectivement des recommandations en retour, et c'est très positif. Et après, pour revenir sur ce que tu disais sur la notion de peut-être de fréquence, de régularité, enfin d'être consistant dans son effort, la première question qu'on me pose à chaque fois, c'est « Mais LinkedIn, il faut que j'y passe combien d'heures par jour, par semaine, par mois pour que ce soit efficace ?» Et tu l'as dit, il vaut mieux y passer peut-être 5, 10, 15, 20 minutes par jour, mais tout le temps, plutôt que ne rien faire pendant 4 semaines et puis le dernier vendredi du mois, se dire « Bon, bah voilà, là, je vais accorder 3 heures cet après-midi à LinkedIn en commentant, en postant, en ajoutant des contacts. » Je crois que tu l'as dit, le plus important, c'est gymnastique quotidienne, régularité, consistance et le faire sur la durée.
D'ailleurs, la consistance, c'est aussi... on pourrait penser que fêter l'anniversaire, c'est aussi une marque d'ouverture vers le réseau et que c'est du business networking. C'en est une, mais pas que. Il y a la possibilité de féliciter, puisque dans notre réseau, on a aussi des gens qui ont des accomplissements, que ce soit un anniversaire professionnel, c'est-à-dire un temps passé assez conséquent dans une entreprise, une interview, pourquoi pas, ou un poste de qualité que ces personnes auraient pu faire, et en gardant cette logique d'authenticité. Donc féliciter, commenter avec quelque chose de totalement authentique et que la personne peut ressentir comme valorisant pour elle.
Et justement, ce matin, figure-toi, en plus tu as été témoin, donc j'ai vu que j'avais une personne de mon réseau que j'apprécie beaucoup, dont la fille fête aujourd'hui, c'est 1 an, donc je pense que c'est quand même un moment important dans la vie notamment d'un jeune papa. Donc je me suis permis de lui laisser un petit message audio sur WhatsApp pour lui dire « Écoute, j'ai une pensée pour vous et ta famille, c'est une journée spéciale pour vous, etc. » Donc tu vois, c'est juste une petite attention. Moi, ça m'a pris même pas une minute. Et je le fais de manière totalement authentique et désintéressée, puisque en faisant ça, j'attends rien de sa part en particulier. Mais voilà, ça me permet aussi de maintenir un bon relationnel et de lui montrer que C'est des choses qui sont importantes aussi pour moi. Et pour te prendre un deuxième exemple, alors ça, c'est quelque chose que j'avais fait il y a quelques années, parce que tu sais, on était un petit peu avant les vacances de Noël, et souvent, on se demande, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais des cadeaux clients? Est-ce que j'envoie des cartes de vœux électroniques? Est-ce que je les rédige manuellement, etc. Et en fait, cette année-là, je m'étais dit, je vais sélectionner vraiment 10 personnes importantes de mon réseau professionnel. Je vais faire en sorte de les rencontrer pour un café un peu informel, tu vois, juste avant la période de Noël, pour prendre de leurs nouvelles, pour savoir comment ils vont, sur quoi ils travaillent en ce moment, etc. Mais aussi pour leur faire une petite surprise. J'avais amené à chacun un petit cadeau. Et en fait, le cadeau, ça a été à chaque fois un livre, mais qui traitait d'un thème qui était important pour eux, pas nécessairement professionnel d'ailleurs. Et en fait, quand je leur ai donné et que je leur ai dit, ben voilà, écoute, j'ai une petite surprise pour toi. Je sais que tu t'intéresses particulièrement à ce sujet. Je me suis dit que voilà, ça pouvait être intéressant si tu as envie de lire un peu pendant les vacances et tout. Et ça avait été très, très, très bien perçu. Donc, c'est ce genre d'attention, tu vois, mais sans nécessairement, comme tu l'as dit, m'attendre à ce que 2 minutes après, ils me disent, tu es quelqu'un de très sympa. Donc, écoute, j'ai du business pour toi. Voilà comment on va faire. OK?
C'est un super exemple et ça me fait penser aussi à une autre chose. Je fais partie d'une organisation internationale et on a Slack comme dénominateur commun pour se parler. Et sur Slack, il y a une application qui s'appelle Donut. Et donc, on organise des moments de 15 minutes où on partage un donut. Donc, bon, en France, on n'est pas trop donut, mais l'idée, c'est de partager pendant 15 minutes et puis de se connaître dans cette organisation et de créer du lien. Parce que un des réseaux les plus faciles à travailler, qui peut nous rendre des choses de manière beaucoup plus naturelle, bah, c'est les collaborateurs d'une même organisation. Et donc, tous les jours ou toutes les semaines, je reçois des invitations pour des donut time de 15 minutes avec des membres de cette organisation pour qu'on apprenne à se connaître et à développer nos relations pour s'apporter des choses mutuellement, que ce soit dans la connaissance de l'entreprise, dans la manière de faire, les procédés. Et c'est des moments en fait où, en plus, moi, ça me fait travailler l'anglais, donc c'est génial. Où on échange, j'ai échangé dernièrement avec quelqu'un qui était à Atlanta, une autre personne qui était dans le Nebraska. Donc c'est voilà, c'est des choses très concrètes comme ça qui permettent de créer de la relation, de créer du réseau et de pouvoir s'entraider quand des moments peuvent être nécessaires pour le faire.
Donc dans la démarche de réseautage, finalement, s'intéresser vraiment à l'autre, c'est le prérequis. Le réseautage, c'est pas forcément essayer d'obtenir quelque chose, c'est simplement entrer en relation sans nécessairement attendre, tu vois, une réciprocité. Et pour moi, tu vois, il y a un terme qu'on utilise souvent dans le business, c'est le ROI, hein, le retour sur investissement. Eh bien non, lorsqu'on est dans cette démarche réseau, on ne se parle pas de ROI, c'est pas l'idée, c'est pas de savoir voilà, quel va être mon retour sur investissement, c'est plutôt avoir une posture, une attitude, un mindset tourné vers l'autre où je m'intéresse à l'autre. Okay? Et j'aime bien l'idée de dynamique, tu vois, de réseau, t'envoies quelque chose et puis ça peut te revenir à un autre moment, ainsi de suite, un peu comme les Américains disent, tu sais, to give and give back. J'aime bien cette idée-là. Alors évidemment, c'est pas toujours facile parce que bah, pour certains, ça demande peut-être à sortir un peu de ce qu'ils font aujourd'hui, d'aller chercher un petit peu là-dessus. Ça demande aussi la perspicacité. Et on le sait, on a tous un peu des approches du monde qui sont différentes, des perceptions différentes. Tu peux faire des bourdes, faut l'accepter, faut pas en faire une affaire personnelle, c'est humain et tu vas apprendre au fur et à mesure également dans ta démarche de réseautage.
Ça me fait penser à deux choses. En fait, deux bouquins et deux auteurs qui. Tu parlais de give back, give. Il y a un bouquin de Bob Burg qui s'appelle The Go Giver, Sell More, qui est exceptionnel et qui justement met en avant cette logique où en fait, en donnant, on reçoit beaucoup plus qu'on y pense. Il y a aussi un autre bouquin de Adam Grant, qui est un fameux psychologue américain qui explique, qui s'appelle. J'oublie le terme, le nom du bouquin, mais qui est vraiment exceptionnel et qui apprend à donner en fait. Cette logique en fait où par exemple dans le leadership, plus on va donner, plus on va recevoir aussi. Donc ça c'est très intéressant. Et puis il y a une autre notion qui moi m'a frappé, c'est que la meilleure façon d'entrer en relation quand lorsqu'on parle de business networking, c'est simplement de demander mais comment ça se passe pour toi en ce moment dans ton business? Et les gens ont forcément naturellement, c'est un biais, hein, ont forcément naturellement envie de répondre à une question. Donc déjà en posant une question, on invite quelqu'un à nous répondre. Et en plus, comment ça se passe dans ton business? Je m'intéresse à toi et à ton business. Donc c'est une très bonne manière d'entrer en relation sans avoir quelque chose de très complexe ou quand on n'a pas un sujet particulier pour finalement permettre à l'autre de s'exprimer sur son business et de rebondir aussi sur le sien.
Et bien voilà, Business Acumen, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à toi, Laurent. Laurent Sébarek, notre premier invité. D'ailleurs, Laurent, toi, on peut te suivre sur quels réseaux sociaux ?
LinkedIn, on a parlé pendant des heures finalement. Donc oui, sur LinkedIn. Et puis, j'édite aussi un podcast qui s'appelle Las Pinsas, sur lequel vous pouvez suivre et qui est dédié aux techniques de vente.
Ok, c'est noté. On se retrouve donc très rapidement avec un nouvel épisode pour parler de business acumen. À bientôt.
Merci beaucoup, Benoît.